Perrault et de moi pour ce deuxième colloque sur Flaubert, au moins ici, dans ce très bel endroit choisi par, trouvé par Pierre-Marc de Biasi. Et j'espère que ce ne sera pas le dernier, et j'espère qu'il y aura une espèce de prolongation, parce qu'on a énormément travaillé, on a vraiment beaucoup publié, enfin, on a bien coopéré, et donc on espère que ce n'est pas la dernière conférence, mais qu'il y aura des suites. On s'était proposé, enfin, pour cette dernière conférence, enfin, pour toute notre coopération, un but, c'est-à-dire qu'on a enfin, un but parmi d'autres, et on était arrivé, pas complètement, mais enfin, on s'en est quand même rapproché, c'est-à-dire qu'on aurait voulu qu'il y ait enfin, une équipe qui ne soit pas simplement bipolaire, mais qui soit une équipe plutôt, enfin, qui aurait une ouverture européenne. Et là, on a eu des succès, Mary Orr est venue. Vous êtes là, donc il y a trois gens, enfin, Linda Nissam qui, elle, n'a pas pu venir, puis Sarah Daniels qui n'a pas pu venir, et Steve Heath qu'on n'a pas pu joindre. Donc, on a essayé d'attirer un peu les gens, mais enfin, ça a marché comme ci et comme ça. Peut-être la prochaine fois, on aurait plus de succès et ce serait encore plus roseau et moins bipolaire, si vous voulez. Alors, on commence ce matin avec Philippe Dufour. Philippe Dufour, je veux dire, un des piliers de notre équipe. Un vrai chêne, il est là d'un arbuste élégant comme ça, mais non, ce fut vraiment enfin, quelqu'un qui a extrêmement bien soutenu notre travail en commun. Et il a, par une espèce de patience dans la recherche positiviste, il a épilé vraiment avec une patience énorme les magasins enfin, qui traitaient justement de notre question. Il l'a résumé avec un esprit synthétique absolument admirable, vraiment dans le cœur de nos recherches. Et il joint à ça un style très élégant, très léger, enfin, vraiment admirable. Alors ce matin, Philippe Dufour va nous parler du symbole, enfin, du chemin du symbole à la métaphore, et je vous donne la parole.
Merci beaucoup. Dans le second tiers du XIXe siècle, s'accomplit une grande mutation à l'intérieur du savoir philologique. C'est le moment où Franz Bopp publie sa monumentale grammaire comparée des langues indo-européennes, bientôt traduite par Michel Bréal. Par l'établissement de lois phonétiques régulières, le philologue reconstitue alors des fragments de la langue mère indo-européenne, d'où dérivent le sanskrit, le grec, le latin, les langues germaniques, les langues celtes. Une préhistoire du langage devient possible. La grammaire comparée découvre l'étymologie des mots primitifs, la signification des racines qui les composent. Le signifiant sort ainsi de son mutisme. Les signes arbitraires se mettent à parler. Les signifiants cachent du sens et aussi des mythes. Car sous la parenté des mots se manifeste une parenté des mythes. La grammaire comparée va déboucher sur une mythologie comparée. Et ici intervient un deuxième grand événement philologique, la lecture des Védas. C'est Max Müller qui va pour la première fois éditer le Rig Veda à partir de 1849. Auparavant, on connaissait l'existence des hymnes védiques, mais ils étaient dispersés. Hegel les mentionne dans l'esthétique. On ne disposait pas du texte d'ensemble. Pour caractériser la symbolique indienne, Hegel prenait appui sur les poèmes épiques beaucoup plus récents que les Védas, le Mahabharata et surtout le Ramayana. Avec les Védas, on touche, croit-on, aux origines de l'imaginaire indo-européen. On assiste à la naissance des dieux et l'on s'aperçoit que l'homme aryen a voyagé avec ses fables. Quittant son sol natal pour aller qui en Inde, qui en Perse, qui à travers l'Europe, il a conservé ses dieux, ce sont les mêmes. En lisant les Védas, en les interrogeant avec l'outil de la grammaire comparée, une préhistoire des mythes devient possible. Ainsi apparaît un nouvel état de savoir dont ne disposait pas Kreutzer dans la première moitié du siècle, et qui va donc permettre de lire autrement les mythes dans leur signifiant. C'est à quoi s'emploie l'école philologique, comme on l'appelle par opposition à l'école symbolique de Kreutzer. Elle va s'illustrer en particulier avec deux anciens élèves de Franz Bopp, D'une part, Max Müller, allemand d'Angleterre, dont l'essai de mythologie comparée publié en anglais en 1856 est partiellement traduit en français en 59, avant la traduction complète de 1873. L'autre se nomme Michel Bréal, qui compose en 1863 deux études, Hercule et Cacus et le mythe d'Oedipe. Kreutzer ne faisait qu'un usage ponctuel des arguments philologiques, d'étymologie en son temps trop incertaine. Il interrogeait d'abord le contenu des mythes, sans s'enfermer d'ailleurs dans le domaine indo-européen. Il considérait aussi bien les mythologies phéniciennes ou égyptiennes. La migration des mythes, chez lui, suivait d'autres chemins. Aux spéculations néoplatoniciennes de Kreutzer, Max Müller et Michel Bréal entendent opposer le positif des étymologies. De l'école symbolique, Bréal dit brutalement qu'elle appartient aujourd'hui à l'histoire. D'aucuns protestent cependant contre cette prétention hégémonique de l'école philologique, comme Louis Ménard qui écrit « Les mots ne sont que les signes des idées, c'est ce qu'oublient un peu trop les philologues qui voudraient remplacer l'étude des symboles par la comparaison des mots ». Le débat, effectivement, porte désormais sur la place du langage dans l'imaginaire. Lire un mythe pour l'école philologique, c'est en faire la genèse. Comment les mythes naissent-ils? Et la réponse se situe non directement dans l'imagination des hommes, mais dans le langage qui produit les mythes par son évolution, à l'insu des locuteurs. Faisant le bilan de son œuvre, Max Müller déclarera « J'ai travaillé toute ma vie à démontrer l'inévitable influence du langage sur la pensée. Le langage, entendons le langage premier, la Ursprache des Indo-Européens, détermine la pensée, y compris la pensée religieuse. » En 1863, Max Müller affirme de façon provocante « L'histoire de la religion est, en un sens, une histoire du langage. » Reconstituant la langue des origines, la philologie comparée de Franz Bopp à Adolphe Pictet manifeste que les premiers mots indo-européens furent des racines verbales concrètes, disant ce qui apparaît au sens. Le soleil est celui qui brille, le nuage celui qui mouille, le vent celui qui souffle. La Ursprache est une langue des images, par opposition à une langue des idées qu'elle aura précédée. L'opposition mutos-logos sous-tend la pensée de l'école philologique. Le vent est celui qui souffle. Les premiers mots sont constitués de l'attribut sensible le plus frappant de l'objet. Loin de chercher le mystère, écrit Bréal, le langage primitif le repousse. Il donne à chaque chose son nom, et ce nom il le choisit d'après la qualité saillante de l'objet qu'il doit désigner. Un trait définitoire désigne donc le défini. Les premiers mots sont des métonymies, qui disent le monde tel que l'éprouve le corps. À partir de là, la machine à mythifier est déjà enclenchée. Le langage métonymique est en soi mythique. La métonymie vaut métaphore. En effet, les racines verbales dans la langue originelle contribuent en tant que verbe d'action, celui qui souffle, celui qui mouille, à animer le monde. Le vent, vayu, est celui qui souffle, de va, souffler. Le nuage, méga, est celui qui mouille, de mi, mouiller. La plupart des racines ariennes, commente Max Müller, exprimaient des actions, et partant les noms donnés aux grands phénomènes, aux grandes activités de la nature, ne pouvaient être que ce qu'ils sont, des noms d'agents. De là, il est facile de concevoir les étapes suivantes, la personnification. Le nom d'agent devient un personnage à part entière à l'image de l'homme. La nature, par l'effet des manières de parler, apparaît comme un monde où se rencontrent, se confrontent les éléments. Les phénomènes de la nature reflétés par la langue prenaient l'aspect de scènes dramatiques, écrit Michel Bréal. Étape suivante, l'antonomase. Le nom commun d'agent devient alors nom propre. Sous l'effet de l'altération phonétique des signes, on n'y perçoit plus la racine verbale, le signe cesse d'être expressif. Dans Diaos, on n'entend plus la racine verbale « celui qui brille », le brillant, encore moins dans son équivalent grec « Zeus ». ou dans son équivalent latin Jupiter, que Bréal ramène à Diaos Pitar, le père qui brille. Voilà, avec cette antonomase, les forces de la nature devenues des dieux personnels. Les dieux sont nés. Ils sont des métaphores oubliées, des images devenues la lettre. Toute la force de l'école philologique est de pouvoir présenter cette reconstitution non comme une hypothèse dans la lignée des discours des origines au XVIIIe siècle, on pourrait penser évidemment à Vico, qui disait que les langues premières sont fondées sur des métaphores, mais en avançant une preuve historique, les Védas. Dans les hymnes indiens, on saisit en effet le processus de glissement du nom commun au nom propre. D'un hymne à l'autre, et parfois dans le même hymne, un mot est employé tour à tour comme nom commun et comme nom d'une divinité. Le mythe dans les Védas comporte ainsi son exégèse. Le langage imagé et le sens littéral coexistent. Les Védas, écrit Max Müller, montrent des mythes en voie de se faire. Bréal fait écho. Lire les hymnes védiques, c'est assister au travail de mythologisation. Je cite Hercule et Cacus. Indra paraît comme un guerrier sur son char, armé de sa massue, prêt à fondre sur ses ennemis. Un peu plus loin, il est le ciel qui brille sur nos têtes. Agni est dépeint comme le messager qui va chercher les dieux et les conduit dans la demeure des hommes. Dans un autre hymne, il est le feu du sacrifice, Ignis. Tout se passe comme si le poète indien hésitait entre un langage épique et un langage à fonction référentielle, entre le merveilleux et le littéral. De sorte que la métaphore reste in presentia. Le masque des dieux ne cesse de tomber. Et dès lors, ce sont toutes les mythologies indo-européennes qui s'en trouvent éclairées. Il suffira de repasser par le sanskrit des Védas pour retrouver l'étymon commun qui a donné vie aux dieux grecs et latins. Grâce aux règles phonétiques, la grammaire de la grammaire comparée, il est évident que Zeus, signe phonétiquement altéré, n'est autre que Diaos, le ciel qui brille, signe encore transparent dans certains hymnes védiques. Sur cette base, l'école philologique construit une véritable sémantique du divin. Pour utiliser un mot que Michel Bréal va inventer à la fin du XIXe siècle, quand il écrira son essai de sémantique. Tout comme alors il définira les mécanismes qui expliquent le changement de sens des mots, Max Müller et lui analysent les mécanismes langagiers qui infléchissent l'idée du divin, les procédés de dérivation par lesquels les dieux apparaissent, se dédoublent, se multiplient. À commencer par le rôle des synonymes, particulièrement nombreux dans la langue première, du fait qu'elle désignait les choses par un de leurs attributs, d'où plusieurs choix possibles. Le nuage peut être celui qui mouille, mais aussi bien celui qui marche. Dans les Védas, il y a ainsi une vingtaine de noms pour désigner le soleil, pratiquement autant pour désigner la terre. De même, dans la mythologie grecque, les dieux solaires abondent, Hélios, Phébus, Apollon, Hyperion, etc. Quand ces synonymes deviennent des noms propres, on crée entre eux des liens de parenté pour à la fois les distinguer et expliquer leur proximité. Ils seront père et fils, frère et sœur, etc. Une biographie des dieux, une théogonie se met en place. Et dans ce processus, le genre grammatical du substantif influence la mythologie, décide du sexe, du partage entre les dieux et les déesses, et du même coup prépare la dramaturgie des mythes, les accouplements, les rivalités. Nouveau témoignage d'un langage énergéia, la grammaire de la langue contribue à la grammaire du récit. On voit ainsi comment le langage impulse la mythologie et détermine la pensée religieuse. Par l'effet de l'antonomase, des synonymes et du genre, on est passé d'un naturalisme premier, l'adoration des forces de la nature, à un polythéisme. C'est le sens de la fameuse expression souvent employée par Max Müller de maladie du langage. Le signe insinue une vision du monde. Michel Bréal écrit, pour sa part, « C'est la langue, avec ses variations, qui est le véritable auteur de la mythologie. » Finalement, les mythes ne parlent pas tant des forces de la nature que de la force du langage. La véritable force magique, c'est le langage. Le surnaturel n'est pas dans le réel, mais dans les mots. L'homme disant le phénomène naturel ne pouvait que le surnaturaliser. L'homme indo-européen, n'oublions toujours pas cette restriction, est religieux parce qu'il parle. La révélation est dans le langage. Au commencement était la racine verbale. Les dieux sont ainsi mort-nés. Ils sont des erreurs de langage, une méprise, que Max Müller signifie joliment par la paronomase en forme de lapsus « numina nomina ». Ce sont des masques sans acteurs, écrit-il, des créations de l'homme et non ses créateurs, ils sont nomina et non numina, des noms sans être et non des êtres sans nom. Lire le mythe pour l'école philologique, ce ne sera pas le désymboliser comme pour Kreutzer, ce ne sera pas exhumer des signifiés cachés, ce sera simplement identifier le référent caché, lequel est univoque. Lire le mythe, c'est établir l'étymologie des noms propres, retrouver le nom commun sous l'antonomase. La langue est la glosse suffisante du mythe. D'où des décodages très prosaïques. Ainsi, Max Müller estime-t-il avoir compris le mythe d'Endymion lorsqu'il a établi que Sélénée est la lune et Endymion le soleil couchant. Je cite. « Dans l'ancien langage poétique et proverbial de l'Élide, le peuple disait « Sélénée aime Endymion et le regarde, au lieu de dire « il commence à faire nuit ». Et tout le reste n'est qu'amplification. De même, lorsque Bréal interprète le combat céleste entre le dieu Indra et le serpent géant Vritra dans les Védas, il rétablit les étymologies des deux noms propres et découvre le mythe naturaliste qui mérite à peine son nom tant il est transparent. C'est dans Hercule et Cacus. Au lieu d'une histoire fabuleuse, nous sommes en présence d'un fait naturel. Au lieu d'un événement une fois arrivé, nous voyons un phénomène périodique. Il n'est pas question d'une lutte entre des héros imaginaires. C'est Diaos, c'est-à-dire le ciel, et après lui Indra, qui déchire Vritra, c'est-à-dire le nuage, en le frappant de sa foudre. Il en fait jaillir des flammes et il délivre les eaux que le monstre tient enfermées. Bref, après une longue sécheresse, arrive enfin la mousson pluvieuse. Faire la genèse du mythe, c'est en retrouver la platitude, pour ainsi dire. La sous-interprétation est de règle. Un Ernst Cassirer, dans l'entre-deux-guerres, reprochera à Max Müller ce réalisme naïf, suivant lequel la réalité serait un donné simple qu'il suffirait de nommer proprement. Alors que pour lui, dans le mythe, il ne s'agit pas de désigner la réalité, mais de lui donner du sens. Max Müller croit avoir expliqué le mythe en trouvant le point de départ. Il ne voit pas que le mythe est une forme symbolique complexe, une manière de voir qui cherche précisément à configurer la réalité. La langue ne se borne pas à nommer, il s'y construit un discours. Tel est donc le débat. Le mythe n'est-il qu'un mot mutos ou ne vaut-il que par l'amplification, ne vaut-il que comme récit? Par là, en tout cas, l'école philologique propose une nouvelle herméneutique qui rompt avec les lectures antérieures des mythes, qu'elles fussent évéméristes, allégoriques ou symboliques. Herméneutique paradoxale, puisqu'elle dit encore une fois qu'il n'y a rien à interpréter, qu'il faut seulement établir le sens littéral, parasité par une manière de parler métaphorique. Il faut lire à plus bas sens. Bréal le dit dans les premières pages d'Hercule et Cacus. L'interprétation est un système trompeur, car il fait supposer que la fable est comme un vêtement jeté sur la vérité pour laisser à l'esprit le mérite de la découvrir. Tel n'est pas, à notre avis, le vrai caractère de la mythologie. Les fables ne contiennent aucun mystère, elles ne sont ni des faits historiques déguisés, ni des allégories, ni des symboles. Nous ne croyons pas que l'homme y ait enveloppé des idées trop abstraites pour être comprises sans images, ni trop hardi pour être exposé à découvert, ou de trop grand prix pour sortir de l'enseignement des sanctuaires et être livré à la foule. Elles ne sont pas l'expression d'une antique sagesse, elles n'ont à nous apprendre aucune vérité profonde, ni physique, ni morale. L'école philologique entend ainsi, ni plus ni moins, liquider toutes les exégèses du passé, comme autant de mauvaises lectures. De là aussi une nouvelle question de l'école philologique. Comment sont nées ces mauvaises lectures? Après avoir fait la genèse des mythes, l'école philologique va faire la genèse des lectures, ou ce qui revient au même, retracer l'évolution des mythes. car les mythes ont une histoire, les mythes entrent dans l'histoire. Ce sera avant tout la tâche de Bréal, d'ailleurs, Max Müller restant plus intéressé par l'origine que par l'évolution. Pour Bréal, la mythologie comparée est une science historique. Elle doit appréhender l'origine et le développement, les transformations des croyances religieuses. Dans Hercule et Cacus, Michel Bréal suit ainsi la migration du mythe de la mousson, Indra et Vritra, auquel je faisais allusion tout à l'heure, après la dispersion arienne. Il analyse les réécritures du mythe selon l'esprit particulier des religions où il est entré. Et alors apparaît une plasticité extraordinaire du mythe à travers le monde indo-européen et les siècles. Bréal reconnaît Indra et Vritra chez les Persans, sous les noms d'Ormuz et Ahriman. En Grèce aussi bien, et là les réécritures abondent, Zeus et Typhon, Apollon et Python, Héraclès et Gérion, mais aussi bien Persée et le monstre marin, Cadmus et le serpent, ou encore Oedipe et le sphinx. À Rome, Hercule et Cacus. En Scandinavie, avec Sigurd dans les Eddas, qui a pour homologue Siegfried dans les Nibelungen, dont la lutte avec le dragon près de la source rassemble tous les éléments. Indra, Vritra, l'eau. Ou encore dans l'Apocalypse, quand Saint Michel terrasse un autre dragon qui passe pour Satan, mais dans lequel Bréal reconnaît l'inévitable Vritra. Ajoutons encore dans le Moyen-Âge chrétien Saint Georges, par exemple. On n'en finirait pas d'énumérer les innombrables variantes repérées par Bréal. Pour un peu, sous sa plume, toute la mythologie indo-européenne n'aurait eu de cesse que de représenter le combat d'Indra et Vritra, procéderait donc de la vieille angoisse des arias paysans, se demandant en période de sécheresse, va-t-il enfin pleuvoir ? Seulement, évidemment, au fil des migrations et des amplifications, le sens des mythes naturalistes s'est perdu, d'où la nécessité de faire parler autrement ces histoires devenues absurdes. Le mythe entre alors dans l'âge symbolique. La métaphore va devenir symbole. C'est la grande différence avec l'école philologique. Le symbole n'est pas premier, comme chez Kreutzer, il est une création a posteriori. Il n'est pas irréfléchi, comme chez Hegel, dit unbewusste Symbolik, il est une construction. Aussi Bréal emploie-t-il indifféremment les noms, les mots de symbole et d'allégorie. La création des symboles ou des lectures symboliques procède de la mécompréhension du mythe originel, trop absurde et trop immoral en particulier. Max Müller s'en accorde avec Bréal. C'est l'évolution du sens, du sentiment religieux qui amène la réécriture des mythes. L'école philologique se place ici sur le terrain de la psychologie. Je cite Max Müller. Quand la conception de la divinité suprême devint plus pure, on comprit que l'idée de perfection, inséparable de l'être divin, excluait la possibilité de dieux immoraux. Pindare change beaucoup de mythes parce qu'ils ne sont pas en harmonie avec sa conception plus élevée des dieux et des héros, et parce que, selon son opinion, ces mythes doivent être faux. Donc, faute de saisir le sens élémentaire, naturaliste, cette époque symbolique va chercher à moraliser les mythes. C'est désormais le souci de ce nouvel âge religieux. Ou à les spiritualiser. Michel Bréal remarque que les commentateurs indiens des Védas, tout en restant conscients du sens naturaliste de ces livres sacrés, ne peuvent s'empêcher d'y chercher un sens mystique qui ne s'y trouve pas, dit-il dans Hercule et Cacus. Marquons là encore la différence avec l'école symbolique. Kreutzer et Hegel voyaient une surdétermination du symbole, favorisant les interprétations multiples. Alors que pour Bréal, le mythe n'est pas polysémique, il le devient. Les commentateurs indiens ajoutent un sens mystique au sens naturaliste. L'exemple le plus spectaculaire de ce type d'évolution est représenté par la religion persane, qui transforme le fond naturaliste en une métaphysique manichéenne. Il s'agit en l'occurrence du mythe d'Indra et Vritra, qui reçoit une interprétation théologique et devient, comme dit Bréal, le cadre d'une religion. Indra et Vritra s'appellent désormais Ormuz et Ahriman. La lutte du dieu et du serpent dans le ciel est devenue la lutte du bien et du mal dans le monde. Bréal note, le dualisme iranien est sorti du mythe de Vritra. Prenons un dernier exemple de cet âge moraliste, celui des Grecs, qui très tôt sont gênés par le côté immoral de la mythologie d'Homère et d'Hésiode. Et c'est à propos de Pindare que Bréal va prendre un exemple, va analyser l'évolution du mythe naturaliste au mythe moraliste, en l'occurrence le mythe d'Ixion. J'en rappelle la donnée narrative. Le roi des Lapithes, Ixion, convié à la table des dieux, cherche à séduire Héra, que Zeus change alors en une nuée avec laquelle s'accouple Ixion. De cette union naîtront les centaures, pendant qu'Ixion est condamné à tourner sur une roue enflammée. Bréal, à l'aide de sa science philologique, décode le sens premier naturaliste en déchiffrant les antonomases. Si Héra désigne l'atmosphère, Ixion, lui, doit être rapproché du sanskrit Axivan, celui qui tourne sur une roue, métaphore pour le soleil. La roue du soleil est une image qui revient souvent dans les Védas. Dès lors, pour lui, le mythe est tiré au clair. Ixion est en fait un double de Zeus, Thiaos, une autre figure solaire, tout comme Héra est un double des nuées. Et de cette synonymie, le conteur a tiré une histoire de rivalité. Le dédoublement produit du récit, c'est le rôle créateur du langage. Les centaures y trouvant aussi leur explication grâce à un détour par le sanskrit, fruit de l'union du soleil et de l'atmosphère, ils sont les nuages, sanskrit Gandharvas, littéralement ceux qui chevauchent dans le ciel. La mésaventure d'Ixion ne signifie donc rien d'autre que le soleil se mêle aux nuées. Pindare, ne comprenant plus cette histoire, en donne une interprétation moraliste en fonction des mœurs grecques. Il lit le mythe comme un exemple. Un châtiment est infligé à celui qui, le premier, osa violer les lois de l'hospitalité. C'est dire que dans cette seconde période, le mythe réinterprété prend naturellement les reflets des idées et de la société où il s'est réélaboré. Moraliser un mythe, c'est l'historiciser. La religion se lie à un état social, et cette adaptation est un autre grand facteur d'évolution des mythes. On passe ainsi des mythes de la nature aux mythes historiques. Les mythes vont s'adapter au milieu et à l'époque. L'école philologique intègre cette fois l'école historique à son schéma d'évolution des mythes. Non pas pour dire, comme Évémère, que l'histoire produit des mythes par hyperbole, l'apothéose des grands hommes, Hercule ne serait qu'un général auquel la postérité reconnaissante aurait donné le statut de dieu, mais pour dire que des données historiques s'incorporent aux mythes après coup. Comme il y a eu symbolisation a posteriori, il y a une évémérisation seconde. Davantage, marquant une autre différence avec l'évémérisme stricto sensu, les éléments historiques du mythe ne renvoient pas à l'histoire événementielle, mais à l'histoire des mœurs. Le mythe raconte l'histoire des mœurs. L'interprétation du mythe d'Ixion par Pindare nous en donnait un premier exemple à propos de la loi d'hospitalité. Bréal développe un autre exemple, celui des Argonautes et de la Toison d'Or. C'est pour lui une variante évidemment de l'inusable mythe d'Indra et Vritra, par le biais de quelques relais, puisque dans les Védas, les nuages qui entourent Vritra sont comparés à des vaches à la faveur d'une motivation linguistique. Le sanskrit go, qui désigne le bœuf, et le sanskrit gavas, qui désigne les nuées, renvoient à une même racine verbale, gou, qui signifie aller. Donc les vaches sont celles qui marchent, les nuées sont celles qui marchent, d'où la comparaison. Dans des variantes de la fable, on a oublié les nuages pour ne retenir que le comparant. L'image des bovins. Héraclès et les bœufs de Gérion, Hercule, Cacus et les vaches du dieu soleil. Avec les Argonautes, par métonymie en quelque sorte, on passe du bovin à l'ovin, de la vache à la toison du bélier, gardée par un dragon, ex-Vritra. Tout ça, il y a une grande virtuosité dans ces interprétations. Bref, on reconnaît les éléments du mythe premier, mais s'ajoute donc un nouvel ingrédient, cette toison d'or, et l'espace maritime. L'évolution du mythe manifeste en fait l'évolution dans l'histoire des mœurs. Nous ne sommes plus à l'âge pastoral de l'Arya primitif en Asie centrale, bien loin de la mer. Nous sommes désormais à une époque d'expédition maritime pour conquérir des richesses et établir des colonies. Au fil des réécritures, le mythe devient ainsi moins religieux et plus humain, plus près de l'histoire de ceux qui racontent ces mythes. Les mythes de la seconde période sont en ce sens des documents historiques. Ils nous renseignent sur les mœurs, l'organisation de la famille et de la cité à des époques plus tardives dans l'âge littéraire. Tel est l'évémérisme différé. Bréal écrit dans le mythe d'Œdipe « Pour tout cet ordre de faits, les mythes sont de l'histoire ». Le contemporain affleure donc sur le fond d'un passé fabuleux. Le mythe est une première forme d'historiographie. Balzac se plaignait de ce que les historiens de l'Antiquité ne nous avaient pas laissé de scènes de la vie privée. Un Bréal retrouvait cette histoire des mœurs dans les mythes. Les mythes nécessitent alors un autre type de lecture. Non plus la lecture qui fragmente à la recherche des étymons, mais une lecture enveloppante qui entend les mythes non plus isolément, mais tels qu'une société les a coordonnés, y fixant sa vision du monde. L'école philologique va s'arrêter sur ce seuil qui ferait passer du mythe à la mythologie, ainsi défini par Adolphe Pictet. Elle comprend tout ce qui tient à la vie des dieux et à leur rapport avec les hommes, la théogonie, la cosmogonie, le gouvernement du monde, les origines nationales, les institutions, le culte, la morale religieuse, etc. À ce point, le mythe n'est plus seulement l'expression d'un sentiment religieux, il exprime une société. La notion de croyance s'élargit aux croyances communes qui font le lien social. À ces transformations et adaptations des mythes, Bréal va cependant ajouter un cas particulier aux accents polémiques, l'emprunt sémitique d'un mythe indo-européen, la contamination d'une religion par une autre, en l'occurrence de la religion juive et dans son sillage de la religion chrétienne. Voici ce qu'écrit Bréal. Comme la Perse s'est trouvée de bonne heure en contact avec la Judée, on peut se demander si le mythe de Vritra n'a pas pénétré chez les Juifs. Simple hypothèse dans cette entrée en matière, mais Bréal a la réponse et ne va pas se montrer très exigeant sur la démonstration. Il y suffira d'un serpent, il n'y a pas à le chercher bien loin dans la Bible. On mesure encore une fois le pouvoir dévastateur de la science des religions au XIXe siècle. La mythologie comparée corrobore ici l'exégèse du docteur Strauss pour critiquer la Bible. Dans Hercule et Cacus, Bréal avance au départ quelques preuves philologiques de l'influence persane sur les croyances hébraïques. Dans le livre de Tobie, qui contient la figure d'Asmodée, il reconnaît une origine persane. Le nom d'Asmodée est à rapprocher du Parsi et Semdef, lui-même comparable au sanskrit Aesma Daeva, donc le démon de la concupiscence. C'est intéressant d'ailleurs de voir qu'il convoque ici le livre de Tobie, qui ne fait pas partie du canon de la Bible hébraïque, qui nous est venu par la Septante, ce qui suggère que Bréal a en ligne de mire le christianisme. Mais donc c'est à peu près le seul argument philologique. Pour le reste, c'est donc le serpent de l'Éden qui rappelle à Bréal, Ahriman, le principe du mal, l'homologue persan du Vritra indien. Donc ici, nulle preuve philologique, Bréal pointe seulement une parenté thématique et affirme plus qu'il ne le prouve. Il écrit « Le récit contenu dans le troisième chapitre de la Genèse offre avec les croyances masdéennes un rapport trop frappant pour que nous puissions nous refuser à y voir une infiltration des idées iraniennes. » Trop pour que, une petite lâcheté rhétorique tient lieu d'argument, le même tour syntaxique, double affirmation qui signe la dénégation, revient 35 pages plus loin. Le serpent tentateur du troisième chapitre de la Genèse rappelle trop directement Ahriman pour ne pas être une importation de l'Iran. L'exemple revêt une forte portée polémique, puisqu'il se trouve à l'ouverture de l'Ancien Testament et comme à la base du christianisme qui, Hegel en fait la remarque, est une théologie de la chute, alors que le judaïsme ne s'était guère attaché à ce passage de la Genèse. Voilà le christianisme renvoyé à des origines indo-européennes, à un mythe, discrètement. Bréal n'insiste pas sur les conséquences. Nous sommes en 1863, l'année de l'affaire Ronan, dont le cours au Collège de France est suspendu pendant que paraît la vie de Jésus qui applique la méthode critique aux évangiles. Entre le Christ, homme incomparable, de Ronan, et Yahvé, Dieu tout à fait comparable, de Bréal, les Écritures étaient attaquées par les deux bouts. Le couple Dieu-Satan se révèle ainsi un doublon d'Ormuz et Ahriman. Le monothéisme judéo-chrétien cache le dualisme iranien. La narration biblique, écrit Bréal, porte le caractère d'un récit pris de seconde ou de troisième main et altéré par la circulation. C'est le tableau de l'invasion d'Ahriman dans le monde, interprété par le peuple hébreu dans le sens du monothéisme et arrangé en apologue. Et Bréal en relève les résurgences jusque dans le Nouveau Testament. Souvenez-vous, le prince des démons tentant Jésus dans Matthieu, le dragon ou le serpent combattant Dieu et ses anges dans l'Apocalypse. Bréal conclut, le mythe védique, transformé et agrandi par les livres iraniens, entre par cette voie dans le christianisme. Voici Dieu et Satan ramenés à Indra et à Vritra, au ciel et à l'éclair. Le christianisme est une variante du mythe naturaliste premier, au même titre qu'Hercule et Cacus. Épilogue. L'école philologique va faire long feu. De nouvelles disciplines viennent contester son pouvoir d'explication. D'abord, l'archéologie préhistorique, avec les travaux de Boucher de Perthes, bouleverse les notions de chronologie et relativise du même coup la valeur des Védas comme documents restituant l'éclosion des mythes indo-européens. Si les plus anciens hymnes védiques sont datables du 15e siècle avant Jésus-Christ, estime Max Müller, la présence de l'homme, elle, est attestée depuis le Quaternaire. Quel temps même sépare la langue des Védas de la langue primitive d'avant la dispersion des peuples ariens? Max Müller, sur le tard, reconnaît qu'on ne saurait le dire. Cela a pu être l'affaire de quelques générations, cela peut avoir demandé des centaines et des milliers d'années, écrit-il. Le discours des origines est ainsi renvoyé à l'origine de l'origine. De plus, à l'intérieur même de la linguistique, la science étymologique, qui avait prétendu se fonder sur des lois phonétiques, doit reconnaître qu'elle est faite d'incertitudes. Un Max Müller et un Adalbert Kuhn, nom important de la mythologie comparée en Allemagne, divergent souvent sur les étymologies censées valider leurs interprétations. Avec le recul, Saussure, dans son cours de linguistique générale, notera qu'on a compris peu à peu combien sont rares les mots dont l'origine est bien établie. Il y a toujours un brichot pour contredire le curé de Combray. L'origine des langues se perd elle aussi. Tranchant, Vendrys écrit « L'idée que par la comparaison des langues existantes, on aboutirait à la reconstitution d'un idiome primitif et chimérique. » Voilà que la Ursprache, retombant en morceaux, nos ancêtres, leur vision du monde et leur dieu redeviennent fantomatiques. Enfin, dernier facteur expliquant le déclin de l'école philologique, l'émergence de l'école ethnologique. Dans le dernier tiers du siècle, se constitue en effet l'ethnologie comparée, avec en particulier en Angleterre Edward Bernard Tylor. L'école philologique, centrée sur les langues indo-européennes, avait expliqué la ressemblance entre les mythes par une origine linguistique commune. À ce comparatisme restreint, l'école ethnologique oppose de troublantes ressemblances entre les mythes de sociétés primitives des cinq continents, lesquels n'avaient pu communiquer entre elles. Tylor écrit « Les traditions des races sauvages nous offrent surtout des conceptions mythiques du monde extérieur, aussi primitives que celles des anciens Aryas, s'accordant avec celles-ci dans leur caractère général et offrant des rapports correspondants jusque dans les détails de leurs épisodes. » C'est ainsi que l'Écossais Andrew Lang retrouve le combat d'Indra contre le serpent Vritra qui a avalé les eaux du ciel chez les Hurons et chez les aborigènes australiens. En une version certes un peu moins épique, le dragon s'est gullivérisé, devenu grenouille qu'il faut faire rire pour qu'elle restitue l'eau qu'elle a avalée, mais enfin c'est bien le même schéma. Plus loin, à propos des sorciers faiseurs de pluie chez les Zoulous, Andrew Lang retrouve encore l'imagerie du mythe védique, je le cite. Leur nom de berger des cieux a un aspect védique. Le Zoulou dit « Le pâtre qui garde la foudre fait comme celui qui garde les bestiaux. Il siffle et dit « Allez là-bas, ne venez pas ici. » Nous voyons par là que le Zoulou regarde les nuages orageux et l'éclair comme des créatures vivantes qui peuvent être gardées comme des moutons. Il n'y a dans ce cas ni allégorie, ni métaphore, ni oubli du sens originel des mots. Le troupeau de nuages est tout semblable au troupeau de vaches. On voit qu'ici Andrew Lang vise manifestement Hercule et Cacus. Bréal expliquait la comparaison des nuées à des vaches, on s'en souvient par un jeu sur la racine verbale commune aux deux mots sanscrits, goût, aller. Andrew Lang, lui, explique la comparaison par une vision animiste des éléments. Il n'a pas besoin de faire le détour par les langues bantoues. Animisme. L'école anthropologique anglo-saxonne fait entrer avec la traduction de Taylor ce néologisme de sens dans la langue française. L'animisme devient la clé de lecture des mythes naturalistes premiers. L'explication dès lors n'est plus linguistique mais psychologique. Taylor écrit « Parmi les causes qui transforment en mythe les faits d'expériences journalières, il faut placer d'abord et avant tout la croyance à l'animation de la nature entière, laquelle, à son plus haut degré, arrive jusqu'à la personnification. Mais la personnification n'est pas alors une manière de parler, une métaphore oubliée, c'est une manière de voir. Pour Taylor, les métaphores sont hallucinées. Elles sont non des métaphores mortes, mais des analogies vécues. Les analogies, écrit-il, qui ne sont pour nous que de simples produits de l'imagination, étaient pour les hommes du passé une réalité. Ils voyaient la flamme lécher sa proie à demi consumée avec ses langues de feu. On pense à Félicité et à Salammbô vivant les métaphores. Pour saisir la naissance des mythes, il suffit d'observer les cœurs simples. Les sociétés primitives modernes ou les paysans des sociétés civilisées, dit Taylor. Le philologue, désormais dépouillé du grimoire des origines, ne sera plus qu'une figure parmi d'autres dans le champ des sciences humaines. Et voici que récemment, sur la place Saint-Michel, là où les Parisiens fixent leur rendez-vous, tandis qu'attendant un ami retardataire, je contemplais machinalement la fontaine conçue par l'architecte du baron Haussmann d'Aviou en 1860, 3 ans avant Hercule et Cacus, avec l'archange terrassant le monstre diabolique sous le corps duquel retombait gracieusement l'eau en cascade, pendant que sur les deux côtés, deux dragons ailés crachaient eux aussi ce liquide salutaire. Soudainement, je crus voir Indra et Vritra reprenant leur combat dans un ciel de mousson d'été. Merci.
Merci pour ce très bel exposé. Ça montre qu'il y a extrêmement de fantaisie dans les lettres, enfin, dans ce qu'il y a de noir sur blanc. Enfin, on peut faire beaucoup de choses avec. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Sinon, j'ai une question. Et elle porte justement sur cette interprétation de Bréal sur le lien entre les mythes persans et les mythes sémitiques chrétiens. Enfin, encore l'histoire du serpent, évidemment. Et j'ai trouvé ça intéressant pour une autre raison. Parce que Renan, justement, qui suit, je ne sais pas trop qui, fait la distinction extrême entre les langues simites et les langues persanes, oui. comme Hollandais l'a montré dans les langages du paradis. Il dit justement, c'est parce que les langues simites sont des langues quasiment mortes, enfin hiérarchiques, qui n'ont pas cette agence, qui sont donc condamnées à une espèce d'infertilité, etc. etc. Enfin, et Renan dit donc, il faut que la chose simitique disparaît de ce monde avec l'islamisme, c'est la même chose, il faut s'en défaire et il faut absolument que le christianisme se lie entièrement, enfin se rattache entièrement à ses origines qu'il n'a pas ou qu'il doit découvrir, persan. Alors, dans Bréal, il paraît qu'il y a une vision autre de cette chose parce qu'il essaie de rattacher le mythe, enfin, l'histoire de la Bible, c'est-à-dire que lui, il semble être beaucoup moins dichotomique et beaucoup moins dans la clash of civilizations.
Oui, moi je pense qu'il est plus dans dans la marche de la séparation entre les églises et l'État. Donc il a vraiment le christianisme en ligne de mire. À la différence, par exemple, aussi d'un auteur dont j'avais parlé dans un autre exposé, Ernst von Bunsen, qui disait qu'il y avait eu contact entre la Perse et le monde juif au moment de l'exil de Babylone, hein, et que donc la secte des Esséniens avait repris certaines idées théologiques, et que le christianisme donc serait se produit. Donc pour Bunsen, c'était une manière d'arianiser, je dirais, le christianisme et de le couper de ses origines judaïques. Donc on voit qu'à partir d'une même donnée, effectivement, il peut y avoir des interprétations tout à fait différentes. Renan, Bunsen, Préal.
Oui, mais c'est une guerre idéologique. C'est-à-dire, c'est pas du tout indifférent.
Non, mais ça n'est pas la même cible dans les différents cas.
Oui, ça c'est vrai. Mais je trouve que c'était quand même intéressant. C'est-à-dire qu'il y a ces deux écoles qui disent quand même le caractère, c'est la langue, etc. Il y a ces deux origines de la langue. Et donc, je trouve très intéressant qu'il y ait, en dehors du cible direct, je trouve très intéressant qu'il y ait ces déplacements idéologiques qui expriment la... différemment, enfin le lien entre les deux cultures, si on veut, ou c'est étonnant. Mais vous ne voyez c'est ça vrai. Que dans un contexte Église-État.
Pour Bréal, le monde sémitique ne l'intéresse pas vraiment, sauf dans ce court passage, donc où il s'agit de démystifier la Bible.
Oui, c'est vrai, d'accord. On travaille sur les deux repères essentiellement dans ce.
Oui, mais justement, les langues indiennes sont construites contre les langues. On peut pas voir l'un sans l'autre.
Je vais poser une autre question. Parce que ce que tu as dit est tout à fait passionnant. C'est-à-dire, comment, dans une tentative qui va être faite, justement, au XIXe siècle, de rationalisation de cette chose si énigmatique, finalement, qui est le mythe, il y a, comme tu l'as très bien montré, cette interprétation qui va changer par rapport au symbolique, qui va être l'interprétation linguistique, c'est-à-dire au fond une perspective très positiviste finalement.
Oui, tout à fait.
Cette perspective positiviste, mais que à l'intérieur du travail du même Réal, il va pouvoir y avoir le passage à quelque chose qui est tout aussi positiviste, c'est-à-dire l'idée du reflet des mœurs d'une société, et ensuite quelque chose qui est aussi de type positiviste, mais là qui est différent, qui ne se trouve pas dans son travail, qui est la psychologisation. Alors, je trouve ça extrêmement intéressant. D'abord, l'énigme du passage de l'interprétation linguistique à l'interprétation morale. Il y a un saut, un gap, comme on dit là, qui n'est pas argumenté ou argumentable, parce que nous ne sommes pas dans les perspectives comparables. Et en écoutant la question, parce que tu connais bien les textes, porterait là-dessus, et moi en écoutant, je pensais évidemment à ce que va, évidemment bien plus tard, en travaillant sur une ère culturelle qui est totalement différente, Lévi-Strauss va tenter de faire au cours des mythes qui sont à sa disposition, et donc il va nous montrer, au fond, mais c'est aussi dans une perspective tout à fait positiviste et rationalisante, que ce sont des petits opérateurs logiques. Le mythe, qu'est-ce que c'est qu'un mythe ? C'est un opérateur logique. Ce n'est pas simplement une manière de se représenter de façon symbolique, allégorique, religieuse, etc. Le monde, ce n'est pas une espèce de cosmogonie comme ça. Non, c'est véritablement quelque chose qui a une fonction et à partir de quoi s'organise finalement la vie sociale. Donc c'est ça qui me paraît extrêmement intéressant, cette façon, ça sera différent, parce que voilà, il va basculer, mais d'une certaine manière, ça n'est pas si éloigné. Mais la question que je vais poser, puisque pour revenir au texte précis sur lequel je travaille, c'est le passage du linguistique au moral. On voit mieux comment du moral au psychologique, les choses peuvent dire la vision historicisante, en fait, dans une sorte de reflet de ce que pouvait être leur mode de vie, leur façon de penser.
Oui, c'est vrai que ce saut, bon, il n'est pas vraiment expliqué, puisque...
Oui, c'est un saut.
Parce qu'on a Homère et Hésiode, donc là, à ce moment-là, il n'y a pas encore de problème. Puis, donc, à partir du VIe siècle, on voit les Grecs s'interroger sur leur mythe, et les réécrire.
Ouais.
Donc, on ne peut même pas dire que ce soit le passage d'un... Enfin, on peut dire que c'est au moment où commence l'âge littéraire, au sens, bon, oui, il y a l'écrit, Mais c'est pas vraiment une réponse satisfaisante. Enfin, c'est un saut, oui. Il n'y a pas, il y a pas de, oui, il y a pas de, d'explication. Il n'y a pas de transition. Il n'y a pas de transition.
Il n'y a pas de,
d'enchaînement. Ouais. On n'a pas de maillon.
Donc,
alors c'est troublant dans les Védas puisque bon, les commentateurs indiens, et c'est pareil, les commentateurs indiens, ce sont des commentateurs très tardifs. Hein, quand Max Müller, par exemple, édite le Rig Veda, bon, il édite à côté un commentaire indien, mais qui est du 15e siècle après Jésus-Christ. Donc là aussi, bon, il y a un saut temporel énorme.
Oui, c'est tout à fait passionnant. Moi, je pensais constamment à nos effets et à la lecture. En particulier cette question du saut et de l'interprétation plus contemporaine sur ces faits. Alors, les deux domaines, c'est le devenir d'un Européen chez Lumézil, par exemple. C'est-à-dire la lecture de Bréal de Proutrose, une chose je trouve très intéressante par rapport à Lumézil. Enfin, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça devient dans cette perpétuation de la notion européenne quand elle devient une interprétation, disons, sociologique, hein, sociologique. On a un effet contemporain important, et je me demandais si on pouvait retourner comme ça en arrière.
Ça a été le premier socio avant qu'il abandonne ses
études. Et donc là, tu ouvres l'histoire longue de cette discipline qui est très importante pour la littérature. Je pense en particulier par rapport à la mythologie indienne, aux travaux de Malamud, qui sont absolument à la fois linguistiques, herméneutiques, interprétatifs. Et on a un mot de les jumeaux solaires, par exemple, c'est un livre admirable, ne peut pas, c'est une intelligence extraordinaire, mais le mythe est, pour ainsi dire, repris quasi narrativement à travers une étude philologique. Et que faire des idées? C'est que faire des mythes? Moi, ce qui me frappe chez Malamud, par exemple, c'est que d'une certaine manière, il raconte les mythes indiens, et philologiquement, il décèle leur action, leur sens, à travers quelque chose qui n'est pas une traduction du sens, mais une sorte d'émanation du sens. En particulier, justement, la vache et l'écriture. Il y a des textes merveilleux de Malamud sur le mythe de la vache qui, dont le dernier pas, porte le nom de l'écriture. Ça va tout à fait dans le sens. Il y a une actualité. De ce type de réflexion qui serait intéressant.
Mais il me semble que le. Oui, donc là, je ne connais pas ce dernier livre que tu citais, mais l'école philologique a quand même été mise entre parenthèses par l'école ethnologique. Et quand on regarde par exemple Marcel Desienne, quand il écrit sa naissance de la mythologie.
Ça commence avec Mauss.
Oui, parce qu'il y a une critique en France, bon, Salomon Reinach aussi.
Le recours philologique continue.
Beaucoup moins. Enfin, on parlait, par exemple, chez Lévi-Strauss, quand il part pour le Brésil, il ne connaît pas un mot de Bororo, de Nambiguara. Hein, donc, il analyse les sociétés par le regard.
La langue, pour lui, c'est pas dans la langue. C'est pas par la langue.
Enfin, je pense que il y a une explication aussi purement circonstancielle. C'est qu'il est parti un peu au pied levé comme ça. On lui a dit, bon, vous irez au Brésil. Donc, il n'était pas préparé pour.
Dans son interprétation,
il s'en est passé, c'est sûr.
C'est simplement l'idée de voir comment ça structure l'organisation sociale. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça continue quelque chose de ce que tu analyses, et ça répond à l'interrogation de Barbara, c'est qu'il s'agit, au fond, d'arracher toute cette question de la mythologie, que ce soit par la philologie, que ce soit par l'interprétation naturalisante, moralisante ou psychologisante ou logicienne qui sera celle de Lévi-Strauss, c'est d'arracher au domaine du religieux.
Ouais,
c'est ça, idéologiquement, qui est l'arrière-fond de toutes ces tentatives de lecture, d'explication et d'analyse. Ouais. Et tu as raison.
Pour le domaine indien, la philologie continue à être active.
Oui, il y a une grande tradition quand même aussi indienne.
Et justement, cette conjonction de philologie et de l'interprétatif un peu mimétique est tout à fait passionnant. Mais à chaque fois, c'est que faire des mythes pour les arracher aux religieux, tout en rendant compte de leur usage religieux, de leur puissance religieuse, et en même temps, ne pas emmener une sorte de traduction, justement, un mythe par un autre, Luther, c'est machin, etc. Et donc, ne pas donner une traduction comparatrice qui est une sorte de réduction du livre.
Max Müller le fait donc pour, oui, ouais, pour l'origine, mais c'est après, bon, c'est vrai qu'il y a ce développement.
C'est l'histoire fondamentale de, ouais, de cette approche du livre. Ouais. En t'écoutant, et c'était passionnant, je me disais, le contemporain est encore dans ce type d'interrogation, y compris en voulant se
essayant, ouais. Ouais. Oui, si on pense à Moses Finlay, bon, son livre sur le monde du lys, c'est aussi donc.
Et en tout cas, pour le domaine latin, l'œuvre de Matamou est radicalement passionnante.
Juste un peu, il y a un moment, mais c'est très léger finalement, de temps en temps, dans la mythologie qui s'attache à quelques noms, Lévi-Strauss. Mais il y a un passage important, puisque ça a été un texte lu ou relu qui a eu une énorme influence pour toute la pensée structuraliste, c'est sa lecture, son interprétation du mythe d'Œdipe. Et là, il va se servir des noms avec des étymologies, bon, il ne va pas chercher bien loin. L'idée de pied enflé, de la dagos qui boite, de, dans la mythologie indienne, de ceux qui sortent de la terre aussi ont des noms qui montrent qu'ils ont un petit problème au pied, etc. Bon, mais c'est vraiment quelque chose comme ça dont il a besoin pour développer sa théorie du mythe comme...
c'est dans les mythologies.
Ça s'appelle structure d'analyse du mythe. C'est dans les anthropologies structurales numéro 2.
D'accord.
C'est la lecture du mythe.
Ouais. C'est intéressant parce que juste pour répondre, parce que Bréal donc analyse le mythe d'Œdipe lui aussi en regardant les noms, bon, il ramène Laios à la figure du soleil, donc le Sphinx aussi est une figure du soleil. C'est intéressant de comparer la lecture
des d'accord. Qui boite, et puis le couture indien qui a un problème au pied dans la conception ctonienne, si tu veux, de l'origine de l'homme.
Donc, tu verras.
C'est un énormément d'importance théorique.
D'accord. Alors,
maintenant, allez.
Juste un contrepoint mineur, c'est-à-dire qu'il y a un auteur qui joue avec toute cette culture, c'est Proust, avec l'âge des noms, l'âge des mots et l'âge des choses.
Oui.
Il reprend les théories Bréal pour. Les théories philologiques de Bréal pour la démythification des noms. Et donc le jeune narrateur qui croit au nom de Guermantes, etc. Ensuite, il a, comment dire, dans une première, Proust avait conçu une première trilogie, justement l'âge des noms, l'âge des
choses. Oui. Oui, c'est pour ça que je faisais allusion aussi à Brichot, un peu par Bouddha,
mais le. Brichot, le... Mais je veux dire,
oui,
c'est la construction même de.
Oui, c'est
vrai.
Oui, Proust parle d'un. C'est plus quel. C'est pas de Bréal, mais donc il y a un ouvrage philologique sur les étymologies qu'il utilise.
Oui,
il utilise
Brichot. Oui.
Mais Proust.
Mais là, c'est.
Oui, ça donne.
C'est Alain qui a montré ça. C'est tout à fait reçu, mais c'est amusant parce que. Il est imbuit de toute cette culture philosophique, philologique de la fin du 19e.
C'était le cousin de Bréal, sauf erreur. Oui.
Bon, je vous remercie beaucoup pour cette discussion et pour cette très belle présentation. Et on va passer à la prochaine conférence. Vous pouvez rester ici, non?